gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Bonsoir à tous, 22h le dimanche soir, La Causerie, Radio Canu, c'est beau hein, 102.2, et aussi sur internet,
aussi.
Ça grésille un petit peu, c'est génial, j'adore. Ce soir au studio nous avons qui? Nous avons Fab.
Salut.
J'adore, en fait ce que vous savez pas c'est que je regarde jamais la bonne personne quand je le dis, exprès pour perturber à Fab.
Ah c'est énorme, voilà. Mais bonsoir à toutes et à tous.
Oui, Jean-Yves.
Bonsoir.
Clara la technique.
Bonsoir.
Et le fabuleux, le fantastique, Claudie.
Bonsoir à tous.
Et Stan qui a fait une ouverture toute pleine d'énergie.
Il en faut, c'est le dimanche soir, sinon je dors. Et
comme quoi, t'as vu la coke, ça marche. Et donc, c'est bien, non?
Et vous pouvez nous contacter. Voilà. Je sais que t'allais te dire ça, je voulais te couper. Vous pouvez venir sur le blog.
Mais oui.
Et donc, il faut me dire qu'est-ce que c'était.
Bah, c'est sur blogs, avec un S au pluriel, donc .radiocanu.org// pour les plus enfin bon bref la causerie, donc je la refais, c'est blogs.radiocanu.org/la causerie.
C'est joliment dit.
Baroblique, j'aime beaucoup. Par mail également
à lacausericanu@gmail.com, tout attaché en minuscules.
Et nous vous invitons chaleureusement à partager toutes les émissions sur ce réseau social bleu qu'est Facebook.
Tout à fait.
Ça serait plus rien de dire bleu si on dit le mot après.
Mais t'auras tenté un truc.
Voilà.
Et ben alors, qu'est-ce qu'on fait
là? Ah. Et ben là, ton lancement
Jean-Yves,
était bien. Merci.
On va faire une balade au Salvador.
Oui, tout à fait. Alors, mettez votre sac à dos sur le dos, tout ça, et puis on est parti. Non, alors, on va sortir un petit peu de la blagounette, hein, parce que je vais vous parler d'un petit truc qui est un petit peu plus. Enfin, un peu moins sympa. Donc moi je vais vous parler d'Evelyne Hernandez qui est aujourd'hui âgée de 19 ans, habitante du Salvador, qui à 17 ans a été violée à plusieurs reprises par les membres d'un gang, et 8 mois plus tard elle a accouché d'un bébé mort-né après avoir fait un déni de grossesse. Et pourquoi je vous en parle? C'est parce que le 5 juillet, donc il y a 10 jours, Evelyne Hernandez, elle a été condamnée à 30 ans de prison pour homicide aggravé. Donc comme je vous le disais, après un accouchement prématuré d'un bébé mort-né, et c'était en avril 2016. Donc déjà, pour vous filer quand même un peu plus d'infos sur le Salvador, hein, il faut savoir que depuis 1998, il est strictement interdit d'avorter au Salvador, hein, qui est un pays d'Amérique centrale, d'un peu plus de 6 millions d'habitants, et en grande majorité catholique.
Avec une église très très présente au Salvador.
Évidemment. Il fait partie quand même, parce que ça, je pensais que c'était important quand même qu'on se le rappelle, ou qu'on le sache en tout cas, le Salvador, il fait partie des pays où l'avortement est illégal en toutes circonstances. Les autres pays, c'est le Nicaragua, c'est le Chili, c'est Honduras, Haïti, le Suriname, Andorre et Malte. C'est cool, hein.
Il y a quand même un pays européen, on est... Ah non, pardon.
Ouais. C'est cool, hein. Ouais,
non, meneur et sauf.
Super. Donc,
non, c'est étonnant la liste parce que je m'attendais à d'autres pays.
Moi aussi.
Je pensais par exemple à des pays comme l'Iran ou même la Corée du Nord et finalement non, c'est pas le cas.
Alors j'ai pas les infos sur la Corée du Nord, mais en tout cas j'ai regardé d'autres pays et effectivement je les ai pas trouvés. Effectivement, hein, grossesse issue d'un viol, d'un inceste, danger de mort pour la mère, qu'importe. Toutes les grossesses doivent être menées à terme, enfin. C'est pour ça que Dieu vous a créé, n'est-ce pas? Enfin bref, dans le cas contraire, effectivement, les femmes s'exposent à des peines de prison pouvant aller jusqu'à 40 ans. C'est pas génial ça, hein? C'est un projet. Hein.
Mais ça veut donc dire que là, elle a été condamnée, oui. Et elle a été quasiment condamnée à la peine maximale prévue.
Bah, 30 piges, ouais. Ouais, oui, parce qu'après, il y a aussi, alors je veux pas dire de conneries, mais je crois que les peines les plus, on va dire, les plus lourdes... Je sais même pas si on peut le dire, mais qui vont au-delà des 30 ans, je crois que c'est pour le personnel médical.
D'accord.
Eh ouais.
Ah, ça dissuade bien, là.
Ah, bah ouais. Attends, quand t'es collabo de. Enfin bon, bref. Donc, la première conséquence, quand même, de cette loi, c'est que c'est le nombre alarmant d'avortements clandestins, avec tous les dangers, pardon, qu'on connaît, hein, aiguilles à tricoter, produits chimiques, ils prennent des produits. Contre les rats, etc. Elles prennent des produits contre les rats. Donc il y a aussi septicémie et puis bien évidemment la mort aussi. L'autre conséquence, de cette législation, c'est qu'elle est aussi à l'origine d'une grande suspicion portée sur les mères et les personnels soignants lorsque des complications surviennent au cours ou en fin de grossesse. Et donc des femmes sont régulièrement condamnées à des peines de prison extrêmement lourdes parce qu'elles sont accusées d'avoir voulu sciemment tuer l'enfant après une fausse couche ou parce qu'elles ont mis au monde un enfant mort-né. Hein. Et au Salvador, on parle d'une trentaine de femmes qui sont emprisonnées pour des peines de 30 piges environ. Quoi.
Pour une loi qui date de 98, ça fait pas mal de personnes par an quand même.
C'est ça. Donc pour revenir quand même sur la situation d'Evelyne Hernandez, il y a Moerna Herrera qui est la directrice du groupe des citoyens pour la décriminalisation de l'avortement, une asso salvadorienne qui a déclaré « Le verdict qui a condamné Evelyne à 30 ans de prison montre comment la justice est appliquée au Salvador. Sans preuve directe et sans preuve suffisante pour clarifier ce qu'une femme a vraiment fait. » Donc l'équipe juridique d'Evelyne fera appel, c'est ce qui s'est prévu, quoi, c'est faire appel de la décision du juge. Et évidemment, il y a un soutien de collectifs féministes et pro-choix. Hein, c'est-à-dire que voilà, il y a des gens qui se battent aussi là-bas pour ça. Et donc, évidemment, j'ai trouvé d'autres trucs. C'est que il y a quelques mois, en fait, il y avait un projet de loi dont le but était d'assouplir ces règles strictes qui a commencé à être examiné au Parlement. Ça proposait d'autoriser l'avortement en cas de viol, de trafic d'êtres humains ou quand le fœtus ne serait pas viable ou pour protéger évidemment la vie de la mère. Comme vous pouvez vous en douter, hein, le projet est resté... Il n'y a rien qui avance, il n'y a absolument rien qui avance. Il faut quand même savoir, la situation politique du Salvador, c'est entre... D'un côté, à gauche ou à l'extrême gauche, c'est des anciennes milices marxistes. Et en face, c'est l'extrême droite. Vraiment, l'extrême droite a clairement dit que aucune loi ne passera dans ce sens-là, c'est-à-dire d'alléger tout ça. Pourtant, de ce que j'ai vu, il y a une forme de sondage qui a été fait. Je crois qu'il y a 74% de la population qui est pour un allègement. Pour en tout cas une ouverture de la pratique, pour les cas où la vie est en danger pour la mère ou pour le bébé, tout ça. Donc voilà, et juste ce que je voulais rajouter quand même, c'est qu'on voit encore une fois la forte capacité de certains politiques et des religions, elles sont jamais très loin, ici bien évidemment la catho avec le soutien d'une partie de la population, diriger nos vies et prendre le contrôle des utérus, en niant évidemment l'individu. Et en soutenant quand même les violeurs. Parce que je veux dire, il faut quand même qu'on se rappelle que cette meuf, qu'on va citer, Evelyne Hernandez, elle est victime de viol. Donc elle est victime de viol, plus elle a le droit à 30 ans de prison. Ces violeurs, je pense qu'ils s'inquiètent de rien. Je pense que leur vie va plutôt très bien. Voilà pour ce petit tour au Salvador. Je voulais juste continuer encore un peu dans la même thématique sur l'Arkansas. Change juste de...
Monte un petit peu.
C'est ça.
On va
un petit peu au nord, donc c'est un état du sud américain. Donc là-bas, c'est, euh, c'est la guerre contre la liberté des femmes de décider pour elles-mêmes. Alors il faut savoir que depuis 2009, il y a de nombreuses attaques et de lois qui réduisent les délais pour réaliser un avortement, qui interdisent certaines techniques abortives, ou d'autres encore qui, alors pas de techniques, mais en tout cas d'autres lois, d'autres choses qui sont là pour allonger le délai de prise de décision. Genre, si vous voulez avorter, vous allez voir un docteur, et puis on vous dit « Ah ben, dans deux jours !» Comme ça, et pendant cet entretien, on vous donne évidemment des informations pas du tout orientées, non, évidemment. Hein. Donc voilà, donc c'est vraiment, enfin, ça pue de plus en plus, ça pue déjà, je pense, depuis un moment, mais là, c'est vraiment pas mal. Donc voilà que cet État conservateur du sud des États-Unis va ajouter une pierre dans son édifice du contrôle des femmes, en appliquant à partir du mois d'août une loi votée en mars. Alors, comment que ça va se passer? Eh bien, les législateurs, ils ont été très malins. Pour qui défend en tout cas leur vision de société. Ils ont décidé, de s'attaquer au statut du fœtus, qui deviendra un membre de la famille décédée. C'est pas génial, ça? Donc, il faut savoir surtout qu'en fait, ils ont fait une loi que toute la famille doit être d'accord pour décider de ce qu'on fait d'un membre de la famille décédée. En faisant donc rentrer le fœtus dans cette catégorie-là, ça veut dire que ce n'est pas l'affaire de la personne qui pourrait être enceinte, qui est en... Non, c'est toute la famille qui décide.
Et c'est quoi la famille pour eux? Parce que la problématique que je vois, c'est que pour moi, qui dit famille au sens que peuvent avoir les réacs américains, ça veut donc dire en fait que si c'est un viol, le violeur fait partie de la famille.
Bah alors justement, c'est un peu ça. C'est-à-dire que... Alors, attends, je vais reprendre depuis mon début, mais il y a ton cas que je vais évoquer aussi. Donc déjà, il faut savoir qu'une femme de plus de 18 ans devra donc désormais obtenir le consentement du géniteur pour la mise pour la disposition des restes fœtaux avant d'obtenir un avortement médical. Quant aux mineurs, elles devront obtenir l'autorisation de leurs parents, voilà, et donc grands-parents du fœtus. Hein. Ouais.
Parents respectifs, en plus, de deux côtés.
Oui, du coup.
Oui,
donc ça fout vraiment le bordel, ça.
Bah, logiquement, oui, je dirais ça, oui.
Bah oui, c'est la notion de famille au sens, enfin, au sens des réacs américains.
Ouais. C'est ça. Et donc, qu'arrive-t-il? C'est exactement ça. Dans le cas d'un viol ou d'un géniteur inconnu ou d'un père ne désirant pas du tout s'impliquer dans l'éducation de l'enfant à venir. Eh bien, la loi, en fait, elle contient absolument rien de précis à cet effet. Donc, ce qui fait qu'effectivement, on peut envisager qu'en cas de viol, le violeur pourrait donc... avoir à donner son avis sur le fait que la femme va devoir garder ou non.
Ou même, tu pourrais avoir un truc terrible, c'est-à-dire un juge qui estime qu'on n'a pas demandé l'avis du père, du point de vue de la justice, du coup. Ce qui fait que tu vas te retrouver avec des gens qui vont être bloqués dans des situations inextricables, avec des juges un peu très, très, très réac, parce qu'il y en a quelques-uns là-bas.
Ouais, puis j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a même plus besoin d'avoir de juges réac. J'ai l'impression que
la population
plus ça va, et à peu près tout le monde est en train d'aller dans ce chemin bien, bien droitier.
La population suffit. Hein.
Et donc, quand même, puisqu'après on va élargir un petit peu, c'est quand même, il faut noter que depuis l'élection de Trump, le droit à l'avortement est de plus en plus fragilisé. Alors, un petit peu avant... en décembre 2016, le même État, l'Arkansas, proposait d'instaurer la mise en place automatique de funérailles pour le fœtus avorté.
Et c'était après l'élection, novembre 2016, l'élection.
Et donc, quelques semaines plus tard, en fait, il y a un juge quand même qui avait repoussé le texte en y voyant, je le cite, un prétexte pour restreindre le droit à l'avortement. Mais... on va pas oublier qu'en janvier 2017, le président américain Donald Trump avait signé un décret interdisant le financement d'ONG internationales qui soutenaient l'avortement. C'est génial, hein ? Et donc en avril, le Congrès validait une mesure permettant aux États d'interdire le transfert d'argent public à toute clinique américaine pratiquant des interruptions volontaires de grossesse.
Alors, c'est symbolique plus qu'autre chose, parce qu'aux États-Unis, le fonds fédéral, comme on dit, est très faible, parce qu'il a toujours été, et tous les républicains qui arrivent au pouvoir font ça. Par contre, ce qui est nouveau par rapport à d'habitude, c'est que Trump s'en est pris aux ONG. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, on disait on ne finance plus le fonds fédéral. Là, il a pointé du doigt des ONG, enfin, des ONG en fait qui sont par exemple le planning familial, qui est classé comme ONG international aux États-Unis. Donc, on ne parle pas non plus d'un truc qui viendrait de l'autre bout de la planète. Hein. Donc, voilà.
Mais il y a une bonne chose quand même, c'est que ça avait été signé dans une mixité absolument... Ah non, excusez-moi, c'est faux.
Oui, c'était la fameuse photo avec des mecs qui étaient
Ah oui, c'est ça. C'était exactement ça, évidemment. Quoi de mieux que les hommes pour s'occuper des utérus des femmes, n'est-ce pas? Et donc, en février aussi, il y a la commission des affaires intérieures du Sénat du Texas qui votait à l'unanimité un texte prévoyant d'empêcher les parents de porter plainte contre un médecin qui leur aurait caché délibérément un handicap de leur enfant à naître. Donc une façon d'autoriser les médecins opposés à l'avortement de mentir à leurs patientes. Donc voilà, donc après, bah là-bas aussi, il y a des assos qui luttent et qui se bougent beaucoup, comme l'association des droits civiques aux États-Unis qui est quand même assez forte. Bah pareil, Planning Familial qui essaye aussi pareil, de se bouger, de dénoncer ces restrictions et qui tente aussi des actions en justice, quoi. Donc voilà, c'est ce que je me disais, on va dire en conclusion, c'est deux pays, deux approches pour un même but. Contrôler les femmes, leur corps, leur vie et réduire leur liberté. Donc voilà, en 2017, du Salvador à la Pologne, en passant par l'Arkansas ou encore l'Irlande et bien d'autres pays, la moitié de la population mondiale n'a toujours pas le droit de choisir ce qui lui convient. La moitié de la population mondiale n'est toujours pas libre. Voilà pour mon tour du monde.
Et en plus, on va dans le mauvais sens en fait. C'est pas qu'on stagne sur un certain endroit, c'est qu'on l'a vu en Arkansas, on l'a vu en Pologne où ça a failli encore s'aggraver comme situation. Enfin, c'est vraiment pas bon signe.
Ah non, clairement. Et puis on peut se rappeler de l'Espagne aussi où il y a deux ans, pareil, on voulait dire l'avortement. Oula, attention, ça va se passer autrement. Hein. Donc effectivement, et puis après, même en France, alors. C'est pas dans la même situation, mais je veux dire, on sait bien que la vague réactionnaire est vraiment en train de... Enfin, même pas en train de revenir, elle revient vraiment. On a pu le voir avec tous ces fachos cathos religieux là dans les rues. Enfin, ça revient vraiment, il y a une lame de fond réactionnaire qui aime à remuer la merde et qui s'y prend vraiment bien, quoi. C'est peut-être ça qui est fou, alors c'est peut-être... Le problème, c'est qu'en face...
Ils ont en ce moment une vague avec eux, ils surfent dessus. Mais je ne me rappelle pas exactement de la phrase de Simone de Beauvoir, mais elle disait quelque chose un peu dans le genre, c'est qu'à chaque crise économique, les premières qui voient leurs droits être réduits, c'est les femmes. Oui. Et en fait, elle disait qu'il faut toujours rester au combat parce que... Voilà. Et en fait, on en a une belle illustration, c'est-à-dire que c'est en plus... Déjà, c'est dégueulasse. Et en plus, c'est des chiffons qu'on agite parce que ça évite aux gens de penser à la récession, à des problèmes économiques, à en fait, finalement, les riches qui deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Et on agite ce chiffon-là au milieu de la population parce qu'on sait que ça marche. Et ce qui est dégueulasse, c'est que c'est que, voilà, comme tu l'as montré au Salvador, c'est des gens qui se retrouvent en taule 30 ans après avoir été violés. Et voilà, c'est
oui. Et puis, si on prend l'exemple du Salvador, je les ai enlevés de mon sujet, mais il y a des chiffres qui sont vraiment hallucinants sur le nombre de grossesses des adolescentes, etc. etc. Donc là aussi, c'est-à-dire c'est toujours plus facile d'interdire, d'enfermer, de sanctionner, que de faire une vraie politique d'éducation à la sexualité, mais pas que à tout ça en fait, de lutter contre les violeurs, parce que finalement, je trouve ça dingue, quoi. C'est-à-dire que c'est la victime qui encore une fois, c'est une double peine, quoi. T'es violé et en plus t'es enfermé, mais enfin, donc c'est vraiment ça, mais c'est tellement plus simple. Et puis ça rassure tellement le patriarcat quand même. Donc voilà, le patriarcat n'est pas toujours pas mort. Sortez les coupes-coupes et on taille dans tous les sens, quoi. Bon, est-ce que vous aviez autre chose à rajouter, peut-être ?
Non, c'est parfait. Après coupe-coupe, on va s'arrêter.
Et alors partons pour écouter de l'allemand, tiens, pour changer.
Ich hab's
Vous êtes toujours à la causerie sur Radio Canu, comme tous les dimanches de 22 à 23h. Et là, on vient de s'écouter Nina Hagen Band avec le titre Unbeschreiblich Weiblich. C'est pas mal.
Bon, bravo.
Merci.
Ce qui veut dire
Unbeschreiblich Weiblich.
Tout le monde le sait.
Mais évidemment, c'est voilà. Pour ça que je vous ne le dirai pas. Non, c'était. Non, alors en fait, c'est. C'est femme, mais dans la notion de ce qu'on attend du rôle social préétabli ouais. Des femmes, où elle dit justement je ne veux pas d'enfant, je n'en porterai pas, pas pour toi, pas pour moi, j'en veux pas. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de la passer. Et ce titre est avant qu'elle vire mystique, à ce qu'on me dit. C'est ce qu'on m'a soufflé dans l'oreillette, hein, moi, je ne suis pas.
Tu n'étais pas au courant.
Non, je n'étais pas voilà. Absolument pas au courant. Sinon, j'aurais passé un Ave Maria, enfin, moi, un truc comme ça, quoi. Donc après, c'est Stan. Qui a quoi les bitcoins?
Non, j'ai la flemme ce soir.
Je me casse. Ok, bon bah.
Allez, bonne soirée. Juste avant, quand même, pour que les gens. C'est ce qu'on dit à la télé, à la radio, les bitcoins en France. Hein.
Ouais.
Bon, bah oui.
Ouais, enfin, si.
C'est bizarre comme.
Dites pas bitcoin, parce que là, vous êtes ridicule quand même.
Oui, bah, comme tous les présentateurs voilà. Télé et radio.
Non, on parle de bitcoins. Un S ou pas au bitcoin. C'est voilà, suivant si vous en parlez de un, plusieurs. C'est tellement compliqué d'en avoir un, donc bon. Alors moi je vais commencer par vous dire surtout que Fab a déjà traité en partie le sujet. Je vais vous même donner la date, le 2 mars 2014. Ça remonte un petit peu.
Ça me rajeunit pas.
Eh non. C'est dispo sur la causerie, hein. Il y a un petit truc de recherche, vous tapez Bitcoin, et hop, voilà, une causerie. C'est bien fait quand même. Voilà. Donc c'est une crypto-monnaie. Hein. Une crypto-monnaie, c'est... Alors qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est tout petit peu complexe parce que les gens sont même pas d'accord à la base de qu'est-ce que ça donne vraiment. C'est pas légal, enfin c'est compliqué. Pour certains, c'est une monnaie, une véritable monnaie. Pour d'autres, c'est une matière première. C'est le bordel en fait. Déjà, ça commence par ça, quoi. C'est un peu compliqué. Et ça, je donnais mon avis, hein, c'est pas toujours, mais voilà. Pour moi, ça a plus l'aspect d'une matière première que d'une monnaie. Clairement, au niveau de son fonctionnement, on est beaucoup plus sur un schéma matière première. C'est sur le marché depuis 2009, la création du Bitcoin. Alors, le Bitcoin, c'est une des crypto-monnaies. Il y en a d'autres. On va pas rentrer dans le détail, mais il y en a plein d'autres. Le Bitcoin, c'est juste une crypto-monnaie. On va expliquer, je vais vous expliquer ce que c'est, comment, les hausses, comment on en fait, comment on fabrique ça, quel impact ça a, tout ça. Le principe d'une crypto-monnaie, en fait, c'est une monnaie donc, qui est mise sur le marché de manière progressive. C'est-à-dire qu'on ne met pas tout d'un coup, mais ça petit à petit, de manière de plus en plus difficile à avoir. Et un plafond monétaire maximal qui est établi à l'avance de 21 millions de bitcoins. C'est-à-dire que c'est un chiffre qui a été donné, c'est le chiffre exact, et il n'y en aura jamais plus. c'est précisément 21 millions de bitcoins qu'il y aura à la fin. Ça sera pas modifiable, donc par rapport à une autre monnaie qui peut être, on peut en rajouter, on peut dire, enfin voilà, on a besoin d'un peu d'argent pour en refabriquer. Non, le bitcoin, c'est définitif à 21 millions.
C'est ce qui donne l'aspect matière première, dans le sens où on peut pas aller au-delà du volume qu'il y a. Quoi.
Exactement. Il y a un volume précis. D'ailleurs, ça a été fait, hein, ça a été réfléchi dans le sens de recréer, de copier l'idée de la rareté et de la valeur des métaux précieux, en fait. Donc on est vraiment, pour moi, sur cet aspect matière. On peut pas le falsifier. Le cours de la monnaie, il est un peu plus géré par la valeur donnée par le public sans influence de l'État. C'est une définition un petit peu grossière, hein, mais bon, des fois, il faut y aller à la hache dans la vulgarisation, tu vois, il faut se faire plaisir. Pendant longtemps, le bitcoin, ça a été un réservoir financier du marché noir. Maintenant, il est dit que non, ça va. Pourquoi c'était ça et pourquoi ça fonctionne encore un peu maintenant? C'est que c'est un fonds sécurisé, anonyme, rapide, efficace. Donc, qui dit anonyme, déjà, dit que c'est vachement bien pour blanchir de l'argent. Mais bon, pour l'instant, il semblerait que c'est minime, cet aspect-là, par rapport à toutes les transactions qui se passent. C'est très transparent. La validation d'un bitcoin et la transaction s'assurent par un ensemble d'acteurs d'une même chaîne. Donc, c'est en fait, quand on fait une transaction, on ne fait pas juste d'une personne à une autre personne. Ça transite entre plein de personnes quand on le crée aussi. Donc, ça permet que ce soit pas sous une seule et même autorité, en fait. C'est pas un État ou une banque centrale qui dirige la monnaie. Il n'y a pas une personne qui décide qui pourrait trafiquer, en fait, un petit peu la chose. Donc, ça, c'est toutes les choses un peu cool pour tous ceux qui étaient un peu défiants vis-à-vis des banques centrales, sans des gouvernements, pouvoir dire c'est une monnaie qui est un peu hors état.
Mais du coup, ça en fait une monnaie privée, ce qui est pas forcément cool.
Oui, non, mais je vous donne juste les bons trucs. Hein, c'est la version papier du Bitcoin. Hein, c'est le côté waouh, c'est génial. En vrai, ça reste de la pure spéculation. C'est absolument pas palpable. Hein, y aura rien. C'est du vent. C'est soumis aux spéculations, aux crises financières. Il y a des bulles. Donc, ça a une volatilité énorme. Ça n'a aucun sens, le Bitcoin. En vrai, ça n'a aucun sens. Et je vous invite à écouter donc Fab, qui est un peu parler de vraiment cet aspect-là, cet aspect très économique de la chose, et où vraiment on se rend compte que bah oui, c'est un peu un non-sens quelque part. Je ne sais pas si...
Oui, moi, je ne vais pas m'auto-congratuler, mais écoutez-moi,
bravo,
c'est vachement
bravo,
bien.
Moi, ouais.
C'était vachement bien ce que j'avais fait.
Alors pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce qu'en fait, il y a eu une très très grosse hausse ces derniers temps du Bitcoin, au mois de mars en fait. Et un petit peu avant, surtout 2017, on est sur une valeur qui a d'abord franchi la barre de l'or. On est passé sur une valeur unitaire au-dessus de celle du kilo d'or et qui a continué à gravir les échelons. On a été à un moment à un pic à $2,700 le bitcoin. À l'origine, pour rappeler, le bitcoin coûtait 0,015 centimes. Sur le premier pic, on est monté vers 900. L'année dernière, on était sur quelque chose de autour des $600-700. Donc là, on est actuellement sur du 1700. C'est 1700-2000. C'est très variable, encore une fois. Hein. Donc $1,700 le Bitcoin. On a plus que doublé la valeur par rapport à décembre. On est quand même sur quelque chose qui a le vent dans le dos. C'est génial. C'est la folie des grandeurs pour plein de gens qui s'amusent avec ça.
Bah, t'as donné un peu les aspects qui expliquent ça, quoi. Je veux dire, anonyme, facile à échanger et pas falsifiable. Ça fait quand même beaucoup de raisons.
Oui, et puis
pour lesquelles les gens foncent dessus, quoi.
Plein d'autres raisons. Il y a plein de trucs cool. Il y en a une qui, pourquoi est-ce que là on est sur une grosse hausse? Le Bitcoin a été reconnu comme monnaie légale de paiement au Japon.
Ça aide un peu.
Ça aide vachement. Enfin, un gros pays asiatique se dit tiens, on peut payer tout et n'importe quoi en bitcoin, enfin, de manière complètement légale, on l'accepte. Donc là, d'un coup, ça crée une économie en fait autour de ça.
On va juste rappeler comme ça, pour mon petit côté éco, que le Japon, qui a l'air tout petit comme ça, hein, comme pays, en fait, je vous rappelle que c'est la 5e zone économique mondiale, ce qui est quand même pas mal. Enfin, ce qui est une grosse zone quand on a la 5e zone économique mondiale.
Voilà. Une belle zone. Quoi.
Voilà, donc ça explique. Non, mais ça explique du coup pourquoi le fait qu'ils disent on peut payer en Bitcoin, ça
influe directement en fait.
Oui.
Puis ça légitime. En fait, c'est quand même une monnaie qui est en recherche de légitimité. Et donc ça légitime. Il y a une autre phase qui est un peu légitimité, même si elle a pas fonctionné, elle a été rejetée. Il y a eu une aux États-Unis, ils ont réétudié la possibilité de. Alors c'est pas le rentrer en bourse, c'est un peu compliqué. C'est un exchange trade fund, donc un ETF. Tout le monde dit ETF en mode tout le monde sait ce que ça veut dire. Moi j'en ai aucune idée. Et c'est pour le référencer, ça permet de spéculer plus facilement sur la devise sans être obligé de l'acheter. Alors je vais pas aller plus loin parce que de toute façon ça a été refusé comme projet de loi, mais ça crédibilise énormément. Quand on en arrive là, en fait, on accepte complètement la valeur. Mais de le fait de d'étudier la possibilité de, ça amène déjà une crédibilité à la valeur. Donc elle a aussi pris à ce moment-là.
Juste comme ça, les ETF, les subprimes, même tout le monde se rappelle, bah, c'était un ETF.
Voilà.
Voilà, donc vous voyez, ça marche bien. Je comprends pourquoi ils ont dit oh non, finalement, on va pas le faire.
Un petit dernier truc, enfin, il y en a deux, en fait, pour être précis. Il y a aussi le leader de la banque en ligne en Suisse qui a accepté, en fait, qui a complètement mis le bitcoin dans les devises échangeables de manière complètement normale. Enfin, on peut passer de l'euro au bitcoin, du bitcoin au dollar, enfin, de manière complètement classique. C'est la première banque qui le fait de manière aussi ouverte et de manière aussi facile. Normalement, on est obligé de un petit peu, enfin, c'est un peu compliqué. On l'achète, en fait. Là, on l'échange. Donc, c'est déjà différent. Mmh. Et aussi, même si, bon, ça, c'est une croyance personnelle, en fait. Il y a eu beaucoup de hacks ces derniers temps où les rançons étaient demandées en Bitcoin. Mmh. Et je pense que les grosses sociétés ont aussi commencé à s'en mettre un petit peu de côté parce que ça fait que de monter et le jour où il faut balancer 300 Bitcoin pour pouvoir débloquer un PC, je pense que ça fait aussi participer à l'économie.
On va rappeler 300 Bitcoin à l'heure actuelle à 1700 euros le Bitcoin.
Voilà, ça fait un petit...
Ouais, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Ouais. C'est un bon petit pacte.
Ça va être sympa. Il y a d'autres monnaies sur le Bitcoin. Il y en a une autre que je vais juste citer parce que c'est important de la citer. C'est l'Ethereum, l'Ether en plus court, voilà, qui est la deuxième plus grosse. Mais il y en a plein en fait. C'est des monnaies qui se calquent les unes sur les autres. C'est le système qui est identique à chaque fois. On essaye juste, on recopie la, enfin, même s'il y a plein de matières précieuses en fait. Donc voilà. Comment sont créés les Bitcoins ? Là, c'est un petit peu plus sympa parce qu'en fait, il y a plein de gens qui connaissent le Bitcoin, mais par contre, la création vraiment, il y a pas grand monde, parce que même moi je savais pas non précisément. Il faut miner le Bitcoin. Il faut le miner, donc je vais vous expliquer un petit peu. C'est un petit peu comme la recherche de l'or. À la base, il y avait plein d'or. Il y avait peu de gens qui en cherchaient. Donc c'était facile. On en trouvait plein. Après, il y a l'information qui se répand, donc plus en plus de monde cherche de l'or, donc il y en a un petit peu moins sur le marché, ça devient un petit peu plus compliqué d'en trouver. Mais l'or, justement, prend de la valeur à ce moment-là, vu que ça devient de plus en plus compliqué à les trouver. Puis ensuite, il y a une troisième phase qui est plus on doit la chercher, plus ça devient compliqué, plus il faut mettre en œuvre plein de choses pour pouvoir la trouver. Donc des entreprises, enfin, vraiment des mises en place de beaucoup de choses, de beaucoup de procédures, de beaucoup de... pour en trouver. Donc ça devient encore plus cher. Et le petit chercheur d'or, lui, bah, au final, il se retrouve exclu du jeu. C'est, bah, ouais, tu ne peux plus trouver d'or. Voilà. C'est que les grosses entreprises qui peuvent. Et à la fin, bah, la ressource elle est quasiment épuisée, là, donc la valeur fait que d'augmenter parce qu'elle devient encore plus rare et elle est sur le marché, la quantité n'augmentera plus et donc sa valeur elle est très importante à ce moment-là. Le Bitcoin c'est exactement pareil en informatique, donc c'est là où on part sur un truc un petit peu bizarre. Il vous faut un logiciel qui va décrypter, qui va utiliser un algorithme pour trouver l'empreinte. Alors l'empreinte, ce truc le plus facile que j'ai trouvé pour un petit peu identifier, c'est on vous donne un bout de papier blanc et on vous dit, bah voilà, t'écris plein de choses dessus et il faut que ça soit un chèque valable. Il faut que ce soit un chèque valable, mais pas dans le sens, comme on vous dit, si t'écris juste, tu signes à la fin. Non, il faut qu'il y ait tous les petits numéros en bas qui correspondent bien au numéro du compte, enfin, que vous donnez le bon nom de famille, etc. Machin. Voilà, ça c'est l'entête, en fait, de votre chèque. Et bah, il y a une entête au Bitcoin qui est pareille, sauf qu'elle n'est... personne ne la connaît. On ne sait pas ce que c'est. Et en fait, votre logiciel, il va tenter, il va dire, bah tiens, c'est ça. Donc l'algorithme va dire non. Puis alors le logiciel il va retenter, il va dire bah, il va changer un chiffre, il va dire bah, tiens c'est ça, etc, 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 pendant des heures.
Il fait plusieurs fois de ça par seconde quoi.
Ah oui, il fait ça plein de fois, par contre ça va très très rapide, voilà, mais c'est une complexité extrême. L'empreinte d'un bitcoin, c'est des chiffres, enfin il faut s'imaginer des séries de chiffres complètement absurdes, longues comme tout, il faut connaître le bitcoin précédent, enfin c'est très très compliqué, c'est vraiment le bordel.
Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui font tourner des bécanes
nuit et jour
pour miner du bitcoin, comme tu as dit tout à l'heure.
Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment ça, en fait. Il faut le logiciel, on va le faire tourner jusqu'à ce qu'il trouve la bonne empreinte, donc la bonne identification. Quand on trouve cette empreinte, c'est là qu'on peut définir que le bitcoin existe. C'est qu'on lui a vraiment donné, en gros, ben, qui il est. Enfin, c'est quoi son numéro à ce bitcoin-là, etc., etc. Donc, quand on a trouvé son empreinte totale, on peut dire que le bitcoin, ce bitcoin-là, existe. Donc, il peut rentrer dans le marché.
Et il t'appartient ?
Il t'appartient complètement.
D'accord. Et donc en faisant tourner une bécane, tu peux gagner 1700 euros en trouvant un bitcoin.
Tu peux.
C'est un peu le principe du chercheur d'or.
Exactement.
Parce que tu peux aussi ne rien trouver.
Tu peux aussi ne rien trouver. Ouais. Parce qu'il y a une espèce de... est-ce que tu vas le trouver le premier ? Qui est-ce qui va trouver ? Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, est-ce que j'ai perdu des gens déjà là ?
Non, ça va.
Est-ce que j'ai le droit de dire oui ?
Oui, tu peux. Ah oui, j'ai essayé de vulgariser au maximum, mais c'est compliqué. Surtout qu'il y a une partie en plus... que j'aime beaucoup, c'est que là on a expliqué, donc voilà, il faut que le logiciel arrive à trouver la bonne définition, enfin l'empreinte du Bitcoin pour le définir en tant que tel.
Et juste pour essayer de clarifier une chose, que même moi je suis pas sûr d'avoir compris, quand l'empreinte, il va le chercher auprès d'un seul organisme qui a toutes les empreintes. C'est ça, ça envoie.
C'est auprès de l'algorithme, en fait, a en lui-même l'empreinte.
D'accord. Ouais.
Qu'il va valider, mais de manière complètement invisible. Et c'est là où on dit que c'est non falsifiable, non, etc. C'est qu'on ne peut pas le déterminer à l'avance.
D'accord.
On ne peut pas hacker le Bitcoin. On ne peut pas aller chercher dans le logiciel pour définir que ah, c'est ça. Non, c'est que, en fait, au bout d'un moment, quand on donne la bonne solution, même l'algorithme comprend à ce moment-là que c'est ça la bonne réponse.
D'accord.
Ouais. Il ne le sait pas à l'avance, en fait, quelque part. D'accord. Et donc la petite particularité en plus, c'est que donc là on a compris que bon, on a un PC qui tourne, ça cherche, ça propose des plein de choses, hop là, et puis bon, plus on met de PC, plus ça va aller vite, ce qui est logique. C'est là où toute l'ingéniosité de la chose, c'est que le Bitcoin, tous les 2016 blocs, alors un bloc c'est un Bitcoin, donc tous les 2016 Bitcoins, va regarder la puissance qui a été mise en place pour trouver les 2016 Bitcoins précédents. Il va se dire, voilà, bah là il y a eu tant d'ordinateurs connectés. Et il va se dire, ah il y a eu une hausse, ah il y a eu une hausse. Bon bah alors on va rendre ça un petit peu plus difficile. Et en fait, il va augmenter sa difficulté par rapport à la puissance qui est mise pour trouver le Bitcoin. Parce que le but de l'algorithme et le but des crypto-monnaies, c'est de donner, pour le Bitcoin, de donner un Bitcoin toutes les 10 minutes, maximum.
Et pour qu'on arrive à 21 millions en 2040.
Voilà, c'est son but, c'est pas de donner d'un coup. Parce que sinon, on balancerait tous les PC, on récupérerait tous les Bitcoins dans les 2 minutes, merci, au revoir, on passe à la suite. Ce qui ne créerait pas de valeur, en fait. Là, c'est qu'on oblige à que la puissance augmente, etc., etc. Donc ça, c'est sur la partie complexe. C'est la partie un peu cool, maintenant, vous pouvez vous la péter auprès de vos amis. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je vais parler de l'impact écologique du Bitcoin. Parce que c'est ce qu'on a défini, si j'ai réussi à me faire comprendre à peu près. Excusez-moi, elle était un petit peu compliquée cette chronique quand même. C'est une monnaie qui demande de faire bosser un PC pour l'avoir. Plus particulièrement, c'est la carte graphique de votre ordinateur, enfin d'un ordinateur, qui a la manière de travailler qui correspond le mieux à la recherche d'un Bitcoin. Donc on va demander, en fait, pour être de plus en plus puissant, parce qu'on cherche la puissance, on va en mettre 1, 2, 3, 4, 5, et puis un maximum de cartes graphiques dans des ordinateurs dédiés. Mais on va augmenter cette puissance. Et la puissance ne fait que d'augmenter depuis la création du Bitcoin. La puissance qui est de recherche, en fait. Il y a de plus en plus de gens qui essayent de miner. Actuellement, on est en 2017, ça fait 5 ans que le Bitcoin existe, la puissance mise en place pour trouver un Bitcoin, c'est équivalent à 18 millions de personnes. C'est supérieur à l'Islande. C'est la Syrie, en gros, actuellement, en termes de consommation électrique. Ça fait 5 ans que le Bitcoin existe. C'est prévu d'aller jusqu'en 2040. Et c'est prévu, normalement, pour aller jusqu'en 2040, à quelques trucs près, mais le système, comme je viens de l'expliquer, fait exprès de pousser jusque-là, en fait. C'est-à-dire que même si on mettait tout maintenant, on n'accélérerait pas la découverte du Bitcoin. Donc, au bout de 50 bitcoins, de recherche de bitcoins, on a déjà la consommation énergétique de 18 millions d'habitants.
Ouais, c'est la région parisienne élargie, quoi.
Voilà.
C'est énorme, hein.
Donc, on s'imagine la suite. C'est pas linéaire, c'est exponentiel comme genre de choses. Il y a d'autres crypto-monnaies. C'est gravissime, en fait, ce qui est en train de se passer. En fait, les seules personnes qui devraient être contentes de l'existence du bitcoin, c'est les sociétés qui créent de l'électricité. Oui. Je veux dire, à part que ça aille dans les caisses.
Et des PC.
En Europe, par exemple, c'est la pénurie complète sur les cartes graphiques. N'achetez plus de cartes graphiques, c'est pas le moment, elles ont pris 100 euros. C'est complètement n'importe quoi. Mais oui, c'est un non-sens, en fait, cette monnaie. On en a parlé la semaine dernière de l'importance actuellement d'avoir un regard écologique sur notre monde. Et ben, il y a plein de gens qui sont en train de fantasmer sur une monnaie qui est en train de tuer, elle aussi, la planète Terre. Voilà. J'ai pas forcément de conclusion, parce qu'en même temps,
elle était bien,
pas besoin de plus.
Conclusion comme ça.
Alors, je finis là-dessus. La planète Terre.
Moi, je voulais juste te dire, tu comprends maintenant pourquoi j'ai pas essayé d'expliquer comment on le faisait.
Ah ouais, non, mais je me suis arraché les cheveux.
Mais merci à toi.
Mais est-ce que, alors, est-ce que on pourrait envisager que le Bitcoin, finalement, il a été créé, alors je vais pas dire secrètement, parce que ça fait vraiment théorie du complot, par des entreprises, justement, qui sont issues du milieu de l'énergie, en fait.
Je pense vraiment qu'elle a... En fait, si... si je veux être bête et méchant, mmh. je me dis que si les gens étaient intelligents et les gens étaient bien pensants, tu vois, si l'humanité était dans le bon sens, ça fonctionnerait à plein de niveaux. Ils se seraient tous dit, on branche tous un petit PC avec une carte graphique, on n'augmente pas la puissance, puis on a tous un petit peu de la monnaie et on la répartit de manière mondiale comme ça. Sauf que tout, il y a plein de gens, les entreprises se sont dit, hey, mais moi je vais faire mieux que mon voisin, je vais aller plus vite et je vais augmenter la puissance. Ce qui pète le système, ce qui fait que le système s'emballe. Et donc je pense juste que le mec n'a pas fait ça dans l'optique de que ça soit cette énergivore à ce point-là. Il s'est juste protégé en essayant de trouver des. Voilà, il a pas pensé à ça. Par contre, je pense que les sociétés, oui, se gaffent sur ce système-là et en profitent à fond.
Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que l'origine des crypto-monnaies, ça vient des jeux vidéo. C'est-à-dire la capacité de créer une monnaie à partir de rien. C'est-à-dire, voilà, en créant des fausses valeurs dans le jeu vidéo, World of Warcraft ou autre, des jeux vidéo en ligne, où en fait, bah, il fallait miner, comme tu disais, c'est-à-dire créer des mines pour aller chercher de l'or. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un jeu qui s'appelle Minecraft qui est même issu de cette idée-là, en fait. Voilà.
Tu voulais dire un truc, parce que. J'ai oublié ma question. Non, attends, je l'avais. Tu parlais de quoi là?
De jeux vidéo.
Non, merde. Si, la question est pour tout l'or du monde. Oui. Dis-moi, est-ce qu'on a une idée de justement de l'énergie utilisée pour finalement avoir tout cet or là?
Les mineurs vont décider de l'énergie qui est mise en place. Plus ils vont se dire que j'en veux plus que le voisin, plus ils vont faire augmenter la machine, et donc plus le Bitcoin va ralentir, enfin va se rendre difficile. Ils en auront pas plus vite. Ils en auront juste, ils vont tuer les autres qui n'auront pas les finances pour se permettre de payer l'électricité, les cartes graphiques, etc.
Ok.
Encore une monnaie pour les riches.
Bordel.
Ah bah là, on est clairement sur une monnaie pour les riches.
Eh ben.
Voilà. Musique.
Allez.
Je parle du progrès flagrant qui se dit d'une génération qui en un siècle a laminé ce qu'une planète a mis des millions d'années à faire de vrai. J'aime les histoires quand elles se finissent mal. J'aime les histoires quand elles sont improbables. J'aime laisser croire que le fond de mes parents n'est pas illusoire. Car oui, le rêve dis-toi, mais ce n'est que fiction qui d'ailleurs aurait foi. On est si coupable d'intention puisqu'on vit dans un comme pourrait sauter le monde. Est-ce que le fait de faire la bombe nous fera rire aux éclats? Les résines ne tombent pas du ciel, corrigeons par le mur en verre d'être si peu spirituel et drôle, mais je vais me refaire. Il était une fois, puis une autre, puis tant à la fois. Le mouton demanda aux apôtres qui dessinent le prince de la voix. Comme chacun prêche le partage, tout le monde vit que son image. Comme chacun prêche la bonté, on ne vit pas du centre de Charitable.
les pires. Personne n'écoute ses vestes, sans même pas s'atteindre. Non, pire, dirigé par un texan.
J'aime les histoires.
De retour sur La Causerie, Radio Canu, 22h-23h. On vient de s'écouter La Roue d'Asalska, Les Histoires Improbables. J'adore.
Ça, on avait remarqué.
J'en ai passé que deux fois. Je pourrais en passer à chaque fois, mais La Roue d'Asalska.
Non, tu pourrais pas.
Je m'en vais. Eh ben, c'est Fab qui prend la suite et je crois que tu nous... parler d'économie, de politique à l'échelle un peu mondiale.
Ouais, mais c'est, en fait, c'est marrant parce que ça rejoint vos deux sujets, mais de façon un peu transverse. Parce que Jean-Yves, tu as pu nous montrer que bah, d'un pays à l'autre, on peut avoir des différences sociétales fortes, hein, c'est-à-dire notamment sur les droits individuels. Et toi, Stan, tu nous as parlé d'un, finalement d'une monnaie qu'on crée et qui prend ou perd de la valeur assez rapidement en fonction de sa rareté. Et finalement, c'est un peu ce qui va rejoindre un petit peu ma chronique, mais vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Parce que l'idée, je me suis appuyé pour faire cette chronique sur le travail fait par des élèves de plusieurs universités, dont deux universités québécoises, canadiennes, une québécoise et une à Toronto. Et Toronto, c'est pas le Québec. Dont certains sont des anciens élèves de Naomi Klein. Pour ceux qui connaissent Naomi Klein, c'est celle qui a écrit La stratégie du choc et qui essaye de décrypter depuis des années le système économique justement qui nous entoure et le poids qu'il a pris sur le politique. Et en fait, ils se sont mis à regarder en fait non pas les aspects sociétaux dans les pays, parce qu'ils se sont dit ça finalement, il peut y avoir effectivement des différences, parce qu'on n'a pas la même vision du monde, parce qu'on n'a pas la même religion, parce qu'on n'a pas la même vision, comment dire...
Même, il y a aussi une histoire d'histoire.
Et puis aussi, c'est ce que je cherchais, merci. La même vision de l'histoire, c'est ça que je cherchais, voilà, et que effectivement, on n'a pas... Par contre, ils se sont rendus compte que sur certains aspects, eh ben, tout changeait à peu près en même temps et dans des périodes qui allaient de 0 à 5 ans par rapport à certaines déclarations. Et ça, par contre, ça les a interpellés parce qu'ils se sont dit, mais c'est quand même étrange que sur certains sujets, tu parlais du droit à l'avortement, on voit qu'il y a une telle disparité dans le monde, alors que sur certains autres sujets, il y a une sorte d'uniformisation qui se fait à vitesse grand V. Et c'est un peu étonnant de voir que l'un passe avant l'autre. Donc, ils ont pris trois exemples que j'ai repris. Alors, le premier, c'est la protection du travail. Alors, c'est plutôt l'inverse, c'est la destruction de la protection au travail. Mais ils ont dit qu'ils sont un peu étudiés qu'effectivement la notion de réforme du droit du travail est aujourd'hui partout dans le monde devenue un sujet central dans les politiques économiques de tous les pays. Alors quand je dis tous les pays, ça va, c'est Trump, hein, c'est pareil chez Theresa May, donc Royaume-Uni, États-Unis, en Allemagne pareil avec Merkel qui n'a que ce mot à la bouche et son concurrent, je me rappelle plus, Martin Schulz je crois, qui pareil parle lui aussi de réformer le code du travail, vous voyez. Vladimir Poutine, hein, qui en a aussi parlé, et encore plus étonnant, quelqu'un que vous ne connaissez pas, je pense, qui s'appelle Li Keqiang et qui est le premier ministre chinois, mais le premier ministre chinois existe, hein, il est en dessous du président, et il a comme mission de rédiger les lois internes au pays, et lui il a parlé du fait qu'il y avait un besoin d'assouplissement des règles des entreprises et de la protection des salariés en Chine. Et oui, vous voyez, c'est une sorte de thème universel mais assez étonnant. Et en fait, c'est assez étrange parce que c'est ce qu'il souligne, bizarrement, ça sort après que certains grands groupes, et notamment les fameux GAFA, Google, Amazon, Facebook et le je sais plus quel est Apple, et commençaient à dire que quand même hein, le droit du travail c'était un peu compliqué et qu'ils avaient besoin d'entrepreneurs un peu plus que de salariés, vous voyez. Et en fait en Chine notamment l'une des réformes qui va apparaître c'est la naissance de l'auto-entrepreneuriat si cher à notre président Macron, qui est d'ailleurs aussi né finalement en Angleterre sous la forme des fameux contrats zéro heure, et qui existe aussi en Allemagne aujourd'hui avec les fameux contrats d'initiative, c'est-à-dire qu'en fait un peu partout dans le monde, on voit apparaître cette notion-là. Je vous rassure, c'est pas neuf. je reviendrai dessus. Ensuite, il y avait la protection du dividende et du fric. Alors là, je vous rassure, c'est vraiment une protection. Hein, c'est pas une destruction. Ce serait bien une destruction des dividendes, mais ça marche pas. Alors, on se rend compte que dans le même temps, ces dirigeants qui sont censés quand même ne pas s'entendre et être tout à fait pas d'accord entre eux. Hein, on voit bien Macron, il dit Trump, il est pas gentil. Theresa May, je vais lui faire la guerre. Vous voyez, c'est un petit peu oula, Brexit, tout ça. Ben en fait, ils s'entendent quand même plutôt bien parce qu'ils n'arrêtent pas de signer des traités de libre-échange. Et que, étonnamment, qu'est-ce qu'un traité de libre-échange ? Ben, le traité de libre-échange, c'est se passer de la justice publique au profit d'une justice privée. Parce qu'en fait, c'est ça un traité de libre-échange. Les gens n'ont toujours pas compris que souvent que ça ne reposait finalement que sur cet aspect-là. C'est la notion qu'en fait, les échanges passent totalement dans le secteur privé et que les États, en gros, ils y mettent pas trop les doigts et puis on crée même des justices d'exception avec des juges nommés, vous voyez. Un exemple de justice privée, c'était le tribunal arbitral de l'affaire Tapie. Vous voyez, on met des gens autour de la table, ils disent alors, on lui donne combien ? Ouais, vas-y, donne-lui ça. Vous voyez, c'est ça le truc. Alors, je vous prends des exemples que j'en comprenne. Voilà. Alors, en fait, l'idée, c'est de laisser les entrepreneurs, entre guillemets, se démerder entre eux. Hein. C'est un petit peu les termes de Donald Trump. Hein. Donc, je cite un grand président quand même. on voit, donc, c'est l'idée, c'est que tout passe au-dessus et que l'État vient en soutien au capitalisme et non l'inverse. C'est-à-dire que voilà. Et puis, bah, c'est l'idée aussi très très bête hein, de pouvoir transformer assez facilement des frais de douane en frais privés. C'est-à-dire que c'est la privatisation aussi des ports et des aéroports. Comme ça, en fait, tout reste dans le secteur privé et tout le monde se fait un max de blé. Par contre, il n'y a plus rien qui revient dans la protection sociale et dans les au niveau des États. Voilà, ça, c'était donc pour dire... Alors, ils ont un peu taquin dans ce rapport. Ils disent, effectivement, ils ont un peu du mal maintenant parce qu'on a compris que c'était souvent au G20 qui parlait de choses comme ça. Et en fait, il faut remarquer qu'à chaque fois qu'un traité de libre-échange doit se faire entre deux pays, on trouve une raison de se voir. Alors, vous allez voir, c'est étonnant. Hein. Justin Trudeau est venu sur les plages de Calais pour célébrer, enfin pardon, pour se commémorer la mémoire, pardon, des morts canadiens sur ces plages. Étonnamment, il est venu alors que c'était pas prévu. Mais si vous regardez un petit peu dans le cours de ce qui se passait, d'habitude, c'est pas le premier ministre canadien qui se déplace, c'est un ministre je sais pas comment on appelle ça, mais ministre des Affaires étrangères. Ouais. Rarement le premier ministre. Et là, il est venu, et ben c'est marrant, c'est exactement le moment où en fait le CETA a été rejeté. Et qu'il lui fallait retrouver des alliés européens. Et donc, on vient discuter aussi de ça. On vient pas que pour la commémoration. Là, il y a un accord de libre-échange entre la France et les États-Unis qui est un petit peu chaotique parce qu'il y a un certain Donald Trump qui veut renégocier ce truc-là parce qu'il dit que ça nous va pas. C'est marrant, il a été invité au 14 juillet à venir pour le défilé parce que c'était les 100 ans quand même de l'entrée en guerre des États-Unis en 1917. Hein. Fallait qu'il y ait une raison quand même là-dessous. Mais ça permet aussi de discuter de ça au passage parce que c'est bien comme ça. C'est pareil pour Theresa May qui s'est invitée un petit peu partout dans le monde en ce moment. On la voit, elle va commémorer plein de trucs que les Anglais ont fait partout dans le monde. Même les Indiens ont été surpris d'ailleurs parce qu'elle a fait une bourde en arrivant. En fait, elle a confondu la commémoration de l'indépendance de l'Inde avec la commémoration de la prise de la conquête de l'Inde. C'était un petit peu maladroit de sa part. Et donc du coup, on voit qu'il y a plein de petits trucs comme ça. Et puis on le voit aussi avec des gens comme Netanyahou qui était invité aujourd'hui pour la commémoration du Veldiv. Pourquoi inviter Netanyahou spécifiquement pour la commémoration du Veldiv ? C'est assez étonnant. Mais c'est aussi parce qu'en ce moment, il y a un traité de libre-échange entre l'Europe et Israël qui est en cours de négociation et que Monsieur Netanyahou vient faire un petit peu le tour des popotes. Quoi.
Ça s'appelle du relationnel, quoi.
Tout à fait. Mais ce qu'ils expliquent, c'est ce qui est différent avec avant, c'est que ça ne se fait plus autour d'une table. Vous savez, c'est pas un G20, un G8, un G quelque chose. Ça se fait plutôt de façon informelle. Et on revient un petit peu à un mode, ce qu'ils appellent le mode féodal, à l'époque où en fait les rois et les reines se déplacer ou envoyer des princes et des princesses se déplacer pour aller discuter à droite à gauche, puis voilà, et on reste entre puissants et surtout on fait en sorte que les gens ne se soient pas à l'agenda. Vous voyez, ce soit pas la première chose à l'agenda parce que sinon ça se verrait trop. Vous voyez, c'est un peu le truc, voilà. Alors le dernier point qu'ils ont pris, c'est aussi la facilitation fiscale et les petits arrangements. Alors quand on dit ça, on se dit bah tiens, de quoi il cause, mais en fait vous allez tout de suite comprendre. Tous les États ou presque dans le monde sur les 195 États, viennent d'adopter la capacité de commuer un remboursement dû au fisc en amende devant un tribunal. C'est-à-dire que, par exemple, vous vous êtes pris la main dans le sac, vous devez 13 milliards à l'Europe. Google, hein, ou Apple, je sais plus, un des deux doit 13 milliards à l'Europe. Et ben, en fait, il va devant un tribunal, il lui dit, bon, alors, sérieux, c'est un peu beaucoup, 13 milliards. Hein. Est-ce que tu me mettrais pas une grosse amende? Et puis, comme ça, on n'en parle plus. Hein, voilà. Et ben, en fait, c'est ce qu'ils font. Comme ça, ils ne payent pas 13 milliards, ils payent une grosse amende. Et puis après, on dit, bon, bah, ça y est, il a payé son obol, c'est bon, on en reste là, on passe à autre chose. Le problème, c'est que généralement, les amendes sont bien moins élevées que ce qu'ils doivent au fisc. Hein, donc, voilà. Et, surtout, l'amende, elle est fixée par avance. C'est-à-dire que le montant maximal de l'amende est connu. Alors, pour Google, c'était d'ailleurs une demande, hein, très clairement, de Google, donc Alphabet maintenant, parce que c'est le nom de la société, parce qu'il se présente plus sous Google, ça se présente sous Alphabet. Facebook, qui avait fait cette demande-là, Amazon aussi. Et le but, c'est de pouvoir continuer à frauder, en gros, en arrivant à anticiper les sommes que l'on va devoir. Hein, c'est ni plus ni moins que ça. C'est un peu comme le plafonnement des prud'hommes, proposé aujourd'hui. Hein, c'est exactement la même logique, c'est-à-dire que vous allez frauder, vous savez que vous allez frauder, mais au moins, vous saurez combien ça va vous coûter, vous pouvez le planifier.
Ouais, tu mets un petit peu de côté. Comme
exactement.
Ça,
oh,
bon, ça va.
Et ça, ce qui a surpris dans l'étude, c'est qu'en fait, ces lois ont été prises dans les 5 dernières années. C'est-à-dire qu'en 5 ans, plus de 180 pays ont mis dans leur loi quelque chose qui permet de commuer quelque chose qu'on doit au fisc en amende. C'est un truc un peu surprenant, mais c'est réellement ce qui s'est passé. Alors, il faut noter que ces arrangements donc, sont sortis dans les pays en 2 à 3 ans à peu près, dans les grands pays démocratiques, comme on dit, et ils ont mis 5 ans pour arriver dans les autres pays. Il faut savoir que même l'Arabie Saoudite, qui s'y opposait jusqu'à maintenant, du fait du droit coranique, wahhabiste de l'économie, a fait faire une fatwa qui a autorisé le fait de pouvoir le faire. Vous voyez, c'est un truc un peu tordu, mais ils ont demandé à un imam de dire, bon, est-ce qu'on a le droit quand même? Et il a dit oui. Donc voilà.
Dieu est quand même vachement capitaliste. Quand même,
non, mais oui, et c'est qu'on voit un petit peu que c'est la force du marché, finalement. Parce que tout le monde a plié. Même la Chine vient d'adopter une loi qui permet ça. La Chine. Alors, il faut savoir qu'en Chine, aujourd'hui, vous pouvez mourir si vous réclamez la liberté. Hein. On sait qu'on a un prix Nobel qui vient de mourir il y a pas très longtemps. Par contre, si tu gruges plusieurs milliards le fisc, tu meurs pas en Chine. Tu payes une amende et tu passes à autre chose. Donc oui, c'est assez intéressant. Alors, c'est plutôt étonnant parce que moi, je pensais vraiment que ce genre d'étude avait été faite. Et en fait, non, c'est la première fois que c'est fait à aussi grande échelle. C'est-à-dire que vous avez des étudiants qui se sont penchés de plusieurs universités, qui ont repris les lois, à quel moment elles sont sorties, qu'est-ce qu'elles ont permis dans tous les pays pour voir un petit peu ce qui se passait. Alors, ils disent, hein, il y a des petites exceptions, hein, quand même, à la Corée du Nord, hein, qui est une exception. Voilà. Et la Corée du Nord. Et voilà, donc c'est à peu près les seuls. Donc c'est un peu étrange, mais voilà, on est dans un monde où on se rend compte que finalement, eh ben le capitalisme s'est installé de partout et avec à peu près les mêmes outils partout dans le monde, et que de partout, on est en train de pressurer les travailleurs, les salariés, les chômeurs, les retraités au profit, ben, finalement, d'une sorte d'oligarchie, comme on dit, mais j'aime pas ce mot-là, mais plutôt de riches, hein, parce que c'est pas vraiment voilà, non, parce que le mot oligarchie, il est un peu connoté des fois bizarrement, alors qu'en fait c'en est une, mais voilà. Et en fait, le problème, c'est que c'est pas tellement que eux aient réussi, c'est que nous, on fait plus contrepoids. Parce qu'en réalité, dans l'histoire, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs, c'est que généralement, quand il y avait quelque chose comme ça, bah, nous, on faisait contrepoids. En fait, on refusait de laisser passer certaines choses. Puis, bah, là, on laisse un peu passer beaucoup de choses. Par exemple, on nous parle un exemple concret de résolution de la crise climatique par le capitalisme. Hein, c'est ce qu'on vient de nous vendre, hein, l'accord de Paris, c'est ça. Hein, vous inquiétez pas, les acteurs du capitalisme vont vous sauver. Alors moi, je doute pas du tout, hein, que des choses seront faites par les capitalistes, hein, parce qu'ils ont besoin de consommateurs et que s'il y a plus d'êtres humains sur Terre, ils n'existent plus. Par contre, je pense qu'ils vont le faire avec beaucoup de cynisme, c'est-à-dire que des millions d'êtres humains crèvent, ils s'en foutent un peu. Donc ils le font déjà aujourd'hui. Hein, y a pas de raison qu'ils le fassent pas demain. Donc voilà, c'est un petit peu le truc étrange. Et là, eux, ils soulignent dans leur texte que, ben, en fait, si on regarde bien, ça, il faut le relier et le corréler avec les politiques migratoires qui sont mises en place partout dans le monde et qui sont à peu près les mêmes de partout dans le monde. C'est en gros chacun chez soi et personne ne rentre chez moi. Et c'est malheureusement vrai. Moi, je pensais qu'ils abusaient et en fait, je me suis rendu compte que non, parce que quand on regarde un petit peu, il n'y a pas vraiment de pays qui accueillent grandement, sauf quand ils ont des besoins économiques et c'est là que ça devient cynique. C'est par exemple le Canada ou l'Allemagne qui ont pour l'instant de forts besoins économiques. Les autres sont sous une forme de migration contrainte. C'est le cas notamment des pays limitrophes et qui eux n'ont pas eu le choix et qui le font par, on va dire, bon cœur. Mais généralement, ils sont en train, et c'est ça qui est terrible, de changer leur fusil d'épaule et de passer à des politiques migratoires beaucoup plus sélectives. Et ça, il faut être très clair, c'est que c'est une demande de tri. C'est pas un manque de compassion, c'est une demande de tri. Et d'où ça sort, parce que c'est là que c'est un peu plus cynique, ça sort en fait d'une table ronde de Davos qui disait que qui disait qu'effectivement, la migration était une chance pour les pays, à condition que ceux-ci puissent choisir qui rentre chez eux et que les personnes qui rentrent soient diplômées. Donc, vous voyez, c'est une vraie forme de cynisme qui se met en place. Alors, effectivement, je ne doute pas qu'il y a des gens, je pense notamment à la Jordanie ou à des pays comme ça, qui...
Le Liban.
Qui, ou le Liban, qui ont ouvert leurs portes grand et qui l'ont fait de façon vraiment magnifique. Mais par contre, c'est vrai que le cynisme est en train de s'installer parce qu'il y a une pression. Parce que ce qui est derrière, c'est les intérêts privés. Et c'est un peu ce qu'ils essayent de démontrer. C'est qu'aujourd'hui, les multinationales, et c'est d'elles dont on va parler, parce que c'est d'elles, en fait, dont je parle depuis le départ, elles ont des volontés, et elles ont des volontés de gestion du monde. Vous écoutez le discours de Mark Zuckerberg aujourd'hui, il a l'impression d'être le président du monde. Hein. Il vous explique comment il faut gérer la planète, il vous explique comment il faut gérer tout. Il est en train de créer une sorte de campus maison Facebook où il revient, en fait,
aux cités ouvrières.
Aux cités ouvrières du 19e siècle.
Mais enfin, moi, je pense qu'il faut qu'on accepte que... Ils dominent déjà le monde, en fait.
C'est un peu vrai. Voilà. Mais c'est un peu ce qu'ils démontrent là.
Ils mettent leurs lois, ils font ce qu'ils veulent, et puis c'est fini, quoi.
Et qu'en fait, ils obligent, en fait, les États à dire, moi, je veux bien m'installer chez vous, si vous contrôlez l'immigration, si vous contrôlez vos populations, et si je ne suis pas emmerdé. En fait, vous voyez, c'est ça les trois axes. Et le problématique, c'est que tous les États aujourd'hui ont une vraie volonté, entre guillemets, de se courber face à eux, parce qu'ils ont le monopole du travail, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est eux qui tiennent le travail entre leurs mains, pas les États, hein, ces multinationales-là, oui. Et ben en fait, ils se plient aussi à mettre leur politique en rang par rapport aux demandes des multinationales. Et ça, c'est la première fois, alors on le savait, mais c'est la première fois que c'est chiffré, c'est là que c'est intéressant, et qu'on démontre qu'effectivement, certaines lois passent dans les 3 à 5 ans après la demande qu'il peut y avoir à Davos, qui peut être exprimée par le président de Google ou par un président de n'importe qui, et que c'est pris vraiment comme argent comptant par nos politiques, vous voyez ? T'as l'air de douter, t'es pas très content.
Non, du tout, c'est juste que j'ai... c'est juste que j'ai l'impression qu'en fait, ça a toujours fonctionné comme ça. Oui. C'est-à-dire que les États, les gouvernements, où qu'ils soient, ils sont toujours à la botte de la bourgeoisie et des entreprises et des patrons pour modeler le pays à leur volonté, en fait.
Eh bien, nous sommes d'accord. Mais ce qui est... Non, mais voilà, mais ce qui... Mais
fin de l'histoire.
Non, mais nous sommes d'accord, mais ce qui est pour moi intéressant, c'est que pour une fois, il y a des gens qui, et c'était tout le travail de Naomi Klein aussi dans La stratégie du choc ou dans d'autres livres qu'elle a pu faire, qui ont essayé de donner des liens de corrélation. Parce qu'autant on peut le dire et on le sent, on voit bien qu'il y a un problème. Là, on voit bien que, effectivement, la notion de multinationale fait qu'aujourd'hui, c'est très rapidement sur le monde entier que les demandes d'une multinationale sont appliquées dans la plupart des pays parce qu'il y a une vraie volonté de récupérer les quelques miettes que cette multinationale veut bien poser chez vous. Et ça, c'est problématique parce que je vais aller au bout de ma chronique. Tu avais quelque chose à dire?
Ouais, j'allais juste à dire que, en plus, jusqu'à présent, même si oui, il y avait des très forts lobbies qui contrôlaient et qui dirigeaient, là, on est en face de, on va prendre Google en exemple, Alphabet, c'est pas un lobby. C'est un truc à tentacules, quoi. Ça attaque de tous les côtés, ça a une puissance et un pouvoir énorme. On n'est plus sur le lobby pétrolier, on n'est plus sur tout ça, on est sur quelque chose de monstrueux, en fait.
Donc voilà, donc c'était un peu ça que voilà, je sais bien que c'est pas nouveau, hein, c'est pas tout ce que je dis. Ce qui était nouveau, c'était d'arriver à chiffrer et à voir que par exemple que quand je reviens sur ma loi sur le fait de transformer un dû au fisc en amende, on voit que la loi elle a mis 5 ans à faire le tour de la planète. C'est inimaginable. Et tu parlais tout à l'heure des droits humains, on voit bien que les droits humains ça bouge pas, quoi.
Mais juste parce que pardon, je m'emporte.
Non mais vas-y, emporte-toi, énerve-toi. <vas-y. rire>
Mais non, mais c'est le micro par terre, vas-y. Attends, je le fais à la fin. Non, c'est peut-être juste parce qu'en fait, nos opposants, en tout cas je le vois comme ça, sont juste mieux organisés que nous, en fait.
Alors, je vais aller au bout de ma chronique, parce que j'ai...
Pardon, ah mais t'as pas fini. Non, mais t'as pas terminé.
Non, parce que justement, parce que j'avais l'idée, mais ouais. j'avais l'idée justement d'aller au bout quand même. En fait, il faut pas se mentir. En réalité, c'est de l'apathie générale des populations qui fait que ça se met en place. Il faut pas penser qu'il y a une espèce de complot ou je sais pas quoi. C'est parce qu'en fait, plus personne ne réclame rien et que tout le monde attend. Voilà. On voit que même dans les zones les plus pauvres aujourd'hui du monde, quand les gens se révoltent, on leur envoie l'armée. Moi, je prends le Venezuela en ce moment, où on peut prendre aussi ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Et finalement, en partie aussi dû au fait qu'il y avait une partie de la population qui commençait à s'appauvrir énormément. Et qui s'est soulevé. Mais par contre, on voit bien que la protection du capitalisme aujourd'hui, elle passe par le fait de tirer dans la masse, quoi. Et on fait plus dans la demi-mesure. Et que la vraie problématique, c'est que dans les pays qui ont encore un contrepoids, c'est-à-dire les pays riches, nous, on bouge plus. Et la réalité, elle est là. C'est-à-dire que la victoire qu'a eu aujourd'hui le système capitaliste sur les populations, c'est de faire en sorte que dans les pays riches, ça ne bouge plus. Tant que ça ne bouge plus dans les pays riches, ils savent que les pays pauvres sont maîtrisables. C'est horrible à dire, mais c'est les termes qu'ils avaient.
Il y a juste un petit truc en plus. J'ai l'impression, en tout cas, les sociétés qu'on a citées sur la fin, elles sont aimées.
Oui, en plus, c'est ça.
C'est-à-dire que les pays riches, enfin, la population riche a beaucoup plus de mal à se dire, ah, c'est grave, ils se disent juste, enfin, c'est pas bien, c'est vrai, mais c'est tellement sympa quand même.
Mais oui, mais c'est ça.
Et donc, on y va pas. On va pas au front.
Et puis, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fusible classe moyenne qui est plus présent dans les pays dits riches que dans les pays vraiment pauvres, où finalement, l'écart, il est entre pauvre et riche, quoi.
J'ai perdu le nom du dernier livre de Naomi Klein, je vous invite à le lire, j'ai perdu vraiment son nom, où elle parle justement de la crise écologique et elle explique que finalement le capitalisme amène une chose en premier lieu, c'est la création d'une classe moyenne. Parce qu'une classe moyenne, c'est une classe consommatrice et que c'est voilà. Mais par contre, elle dit bien, il y a du bénéfique dans la classe moyenne, parce que quand même, il y a l'accès aux soins, il y a l'accès à certaines choses. Et il y a aussi le côté justement un peu négatif et très négatif qui est du fait que c'est généralement là que les révoltes se taisent, en fait, quand cette classe moyenne existe. Et que du coup, voilà, c'est un jeu avec tout ça. Mais moi, c'était vraiment pour souligner le fait que c'était intéressant de voir qu'on ait pu chiffrer et de voir que certaines demandes vont très très vite à faire le tour de la planète et que ça, c'est assez nouveau quand même d'avoir cette vitesse-là. Je vais juste quand même finir sur une chose, parce que ça excusez-moi, c'était par rapport à ce qui s'est passé à Hambourg. Je sais que beaucoup de gens trouvent qu'à Hambourg, il s'est passé plein de choses et qu'on aurait soi-disant empêché quoi que ce soit. Ben en fait, oui, hein, il y a eu une résistance, elle était vraie, mais par contre, on était moins à Hambourg. Enfin, je dis, il y avait moins de personnes, j'y étais pas. Il y avait moins de personnes à Hambourg qu'il n'y a pu en avoir à Gênes, en Italie, voilà, en 2001. Et puis surtout, il faudrait peut-être pas oublier une chose, c'est qu'un sommet du G20 qui est emmerdé, c'est un sommet qui se tient pas. Et là, il s'est tenu, et les décisions qui ont été prises au G20, c'est notamment le fait de renforcer les accords bilatéraux et multilatéraux, c'est-à-dire ce dont je parlais, les accords de libre-échange. Donc voilà, on voit bien que finalement, ça n'a pas trop trop mal marché pour les capitalistes.
Mmh. Oh, ça va, 23h05.
Non, j'ai dépassé.
Ouais, surtout, je me disais, pardon, je voulais juste rajouter ça par rapport à Hambourg, le jour où on pourra dire qu'on a gagné contre la police, c'est le jour où leurs chargeurs seront vides et qu'on sera encore debout.
Oui, ça c'est pas faux. Ah,
c'est beau, ça, dis donc.
Ah, je sais pas, mais c'est venu comme ça.
C'est magique.
Ça doit être l'heure.
Non, mais voilà, mais donc, du coup. Bon, je pense que du coup, on va mettre un dernier titre.
Bah, je pense qu'on va passer tout de suite au titre de fin. Hein, et on va se souhaiter.
Tout ça pour que Clara ne mette pas son titre.
Une bonne semaine.
C'était fait exprès, ça.
Évidemment.
Bah oui, bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine, 22h, 23h.
Et ne vous inquiétez pas si on parle pas de Brest, parce qu'il y en a pas.
Ah oui, bien vu. C'est voilà. Bien de le préciser.
C'est pas juste qu'on n'a pas le temps, c'est juste que c'est non. Les vacances pour tout le monde.
C'est ça. Sauf pour les pauvres, les précaires, les.
Mais malheureusement, enfin, bon. Oui.
Ouais, ok.
On voit bien que.
Là aussi, il y a un problème.
Ouais. Bah, merci Claudie aussi, même si on t'a pas entendu.
Oui, merci de m'avoir invité.
Non, mais avec plaisir.
Avec plaisir.
On ne dévoilera pas qui tu es par rapport aux membres de la causerie. Voilà,
tout ça est secret.
On s'écoute quoi pour finir?
Ah oui, bien vu, on s'écoute quoi?
Eh bien, moi j'avais envie de fusiller Bernard Minet, alors j'ai décidé de vous parler de Seiji Yokoyama, qui est malheureusement décédé, enfin malheureusement il n'était pas tout jeune, mais qui est décédé la semaine dernière, et c'était le gars qui faisait les musiques, notamment des Chevaliers du Zodiaque, autrement dit Senseiya en japonais. Pour japonais. Mais en fait, ce que je voulais vous démontrer avec le titre que j'ai passé, c'est que lui, il mettait pas des gros trucs machin avec des paroles nulles. En fait, il mettait un orchestre symphonique avec une chanteuse à voix et c'est totalement différent et ça démontre à quel point au Japon, il y a une vraie culture du manga et qu'en France, on l'a vraiment pris par-dessus la jambe par rapport à ce qu'elle est réellement et c'est bien dommage.
Voilà. Il y a presque un mépris, je dirais.
Ouais, tout à fait.
Du manga en France.
Donc, on se quitte avec un morceau qui est issu de la bande originale des Chevaliers du Zodiaque, de Senseiya, et c'était les frères Triste Sad Brothers. Voilà, pour ceux qui ont vu le... Ah, voilà, enfin bref, ça vous remettra les Chevaliers du Zodiaque, qui et tout ça dans la tête. Mais bon, amusez-vous bien. Bonne semaine.
Bonne semaine.
Bisous. Ciao.
Bisous.
Salut.